glace. Et j'ai envie de me venger et de faire des choses qui ne se font pas avant.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez INCA.ca. Ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Tire le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salon attachants, on te promet de te faire voyager sans trop te ruiner.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Vendredi 17 septembre 2021, ici Alex Bergeron et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec et de CFAQ 88.3 à Sherbrooke, vos radio universitaire préférée. On y est. Dernier vendredi avant l'élection de lundi prochain. Avez-vous déjà voté? Allez-vous voter? C'est important d'aller voter. À la limite de cocher toutes les cases, mais allez voter, au minimum. C'est le plus important. Au début, on disait qu'il allait peut-être avoir le pire score en termes de participation. Peut-être pas. Du moins, le vote par correspondance a été énormément surévalué. Mais entre vous et moi, j'ai jamais rien vu passer. Là-dessus, pour voter par la poste. Il n'y a comme pas eu de demande, il n'y a comme pas eu d'annonce de « Hey, si vous voulez voter par la poste, inscrivez-vous ici. » Tu sais, je comprends l'idée qu'ils peuvent pas nécessairement tout... être capable de connaître tout le monde. On avait prévu quelque chose comme 5 millions de votes, ou en tout cas quelque chose comme ça. C'était vraiment un énorme nombre, mais finalement, ce serait seulement 1 million 11874 Canadiens qui ont demandé à Élections Canada de voter par la poste dans leur propre circonscription. Ouais, ce qui est pas très bon. En fait, il y a 1 011 000 qui ont fait la demande pour avoir un bulletin de vote par correspondance, par la poste. Mais semble-t-il que pour l'instant, en date du 16 septembre, il n'y en avait que 626 000 qui avaient été retournés. Ce qui est mieux que l'élection de 2019, mais qui est pas si bon que ça. Le nombre de trousses de bulletin spécial est 2,5 fois plus élevé pour les électeurs votant dans leur circonscription. Le décompte pourrait s'échelonner sur 5 jours. Si les bureaux de scrutin n'ont pas fini de compter le 21, ils vont continuer le jour suivant. Il y a 2 ou 3 quarts de travail le 21 et ainsi de suite. Selon la porte-parole d'Élections Canada, Nathalie de Montigny. C'est sans compter les 220 000 Canadiens qui ont obtenu une trousse semblable pour voter dans une autre province que celle dans laquelle ils résident ou dans un autre pays. Ces bulletins sont toutefois traités le soir de l'élection à Ottawa. Donc, est-ce que c'est pour éviter ou rapatrier les trucs aux bons endroits? Peut-être, sait-on jamais. Pour chacun des bulletins remis par la poste, Élections Canada va contre-vérifier avec la liste des électeurs qui ont voté en personne pour s'assurer qu'ils n'ont pas voté deux fois, donc par la poste et sur place. Plus il y a de votes par bulletin spéciaux, plus ça prend de temps à Élections Canada pour faire la vérification et ensuite les compter, semble-t-il. Le temps total passé au dépouillement dépendra toutefois des circonscriptions. Certaines d'entre elles ont distribué aux électeurs plus de 10 000 enveloppes pour le vote par correspondance et seulement 1 800 dans d'autres circonscriptions. Donc, il y a certains endroits où ça a été vraiment très bon. 4 des 5 circonscriptions où le plus grand nombre d'enveloppes ont été distribuées se trouvent dans l'ouest de la Colombie-Britannique ou sur l'île de Vancouver, notamment dans la circonscription Saanich Gulf Island de Elizabeth May. Environ 12% des électeurs qui comptent envoyer leur vote par la poste dans la seule circonscription d'Elizabeth May. Une seule circonscription du Grand Toronto, Toronto-St. Paul, figure parmi les 10 circonscriptions ayant le plus grand nombre d'électeurs inscrits au vote par la poste ou qui ont fait la demande. Ils travailleront, les employés d'Élections Canada, selon le porte-parole, jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, ou même plus, pour terminer ce décompte. Quelques heures plus tard, le 21 en matinée, le dépouillement des votes par la poste débutera officiellement. Donc, certaines circonscriptions, que si c'est très serré et que si on sait qu'il y a un nombre important de votes par la poste, on risque de les prioriser. Et en ce moment, en date d'hier, si les élections avaient eu lieu, au pourcentage, c'est encore né-à-né, quoique il y a eu un petit renversement avec les libéraux à 32 et le Parti conservateur à 31,7, suivi par le NPD à 19,3, le Bloc à 6,9 et Parti populaire 5,7, Parti vert, Parti populaire, c'est ça, 5,7, Parti vert 3,4. Ce qui veut dire, parce que c'est une moyenne, c'est une moyenne canadienne, parce qu'il y a certains sondages qui ont été audacieux la semaine dernière et qui ont placé le Parti populaire de Maxime à 10% des intentions de vote, même si c'était pas un 11-12. Mais malgré cette petite hausse-là, on est quand même de retour en territoire plus ordinaire à 7-8. Toujours la même firme de sondage, c'était Écosse, sauf erreur, qui mettait la semaine dernière ou en début de semaine Maxime à 11, mais qui est déjà de retour à 8-7. Fait que pour ça, ça rentre dans l'ordre. Mais c'est vraiment au nez à nez dans le cas de libéral et parti conservateur. Si on remonte au 26 août, ils étaient ex aequo pour la première fois parce que les libéraux menaient, ont dégringolé tranquillement pas vite jusqu'à la fin août. Puis le Parti conservateur d'Erin O'Toole est revenu en pole position, même que le plus grand écart qui s'était passé, c'était le 2 septembre ou même le 3 septembre où les conservateurs avaient quasiment 5 points d'avance sur les libéraux. Mais en fin de course en ce moment, c'est déjà de retour à libéraux avantage, mais une très très mince avance, comme je disais, 0,3 de différence si les élections s'étaient conclues hier. Donc rien n'est joué dans cette campagne-là. Rien n'est vraiment joué. Et à preuve que le pourcentage donne un indice, mais pas tant, on le sait, les conservateurs sont très forts dans l'Ouest canadien. Donc, que le pourcentage soit très élevé dans les provinces de l'Ouest, que ça soit très élevé en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, ça fait pas grand-chose. Ça fait quand même que, au nombre de sièges, le Parti libéral est en 145 et le Parti conservateur à 126. Évidemment, on est très loin de la majorité que Justin voulait obtenir, une majorité qui est à 170. On est à 145, c'est un retard de 25. D'ici l'élection, c'est à peu près impossible à rattraper. 25 sièges de retard. Faudrait que Erin O'Toole se mette à insulter tout le monde et que Jack Meat abandonne pour que ça se puisse. Que ça se puisse. Que même Yves-François abandonne lui aussi pour que Justin espère avoir une majorité dans les projections actuelles. Ça semble être assez impossible d'obtenir une majorité, que ce soit libéral ou que ce soit parti conservateur. En ce moment, les probabilités que le gouvernement majoritaire soit prononcé si la tendance se maintient lundi prochain est à 15% pour le Parti libéral et à 1% pour le Parti conservateur. Donc, il faudrait un effondrement total de Justin pour que les conservateurs reviennent si forts. Mais encore là, pourquoi les conservateurs n'auront pas cette majorité-là? C'est qu'il faudrait qu'ils rentrent fort au Québec pour que ça se puisse, comme ça a déjà été à une certaine époque. Mais en ce moment, le Bloc québécois est beaucoup trop fort pour permettre aux conservateurs de faire plus que 10 à 11. Et les blocs sont aussi encore trop forts pour permettre également à Justin d'avoir une avance confortable sur son plus proche rival. Au pourcentage québécois, c'est toujours le statu quo. Les libéraux à 33, le Bloc à 30. Ce qu'on observe depuis à peu près le début de la campagne, donc pas de grande... En fait, non, il y a eu une petite remontée quand même, parce que la campagne a débuté, le Bloc était à 28-29, a dégringolé jusqu'à 25 au milieu de la campagne électorale. Mais, avec l'aide de la modératrice du débat anglophone, Yves-François est revenu à 30% des intentions de sondage. Donc, il a commencé à peu près à 29-28, il est maintenant à 30, grâce à cette modératrice qui a posé une question très, très, très serrée à Yves-François Blanchet, qui évidemment n'a pas fait le bonheur d'Yves-François, n'a pas fait le bonheur du Parlement de Québec, et a réveillé les heures sombres des deux grandes solitudes que compose le Canada entre le Québec et le Canada anglais. En demandant à Yves-François « Pourquoi vous appuyez les lois racistes de François Legault? » C'était pas la place. C'était pas la place pour ça. C'est une redite du débat de 2019 parce que il y avait une journaliste qui avait également demandé à Yves-François Blanchet « Pourquoi vous appuyez la loi raciste du projet 21 de François Legault? » Évidemment, Yves-François avait répondu il y a 3 ans, mais cette année, ça a été la première question du débat, parce que oui, elle a voulu à peu près également piquer tous les chefs en commençant avec une question très serrée avec tout le monde, mais évidemment, ce qu'on a retenu de ce débat en anglais-là, c'est qu'elle a été méchante avec Yves-François Blanchet, de l'aveu de beaucoup de monde, et évidemment, on a attendu la fin du débat en conférence de presse pour que François dise « ça n'a pas de bon sens comment qu'on a été traité ici, les Québécois, devant dans le débat du Canada anglais ». Comme il l'a si bien dit, si hier, la veille, le débat en français était organisé au Québec, eh bien aujourd'hui, le débat était organisé par le Canada. Dans ces belles formules pas du tout dramatiques qu'on connaît à Yves-François Blanchet. Ce qui a quand même été bon pour sa campagne à lui, de devoir justifier que le Québec, on a le droit de faire les projets de loi qu'on veut. Appui ou non, n'en déplaise à François Legault, peut-être suis-je un méchant woke, moi aussi comme Gabriel Nadeau, de dire que non, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec son maudit projet de loi. En fait, probablement oui, qu'aux yeux de François Legault, ayant moins de 35 ans, ou même ayant moins de 40 ans, je suis un méchant woke qui veut empêcher François Legault de faire ce qu'il veut. Je blague beaucoup, mais le clash générationnel auquel on a eu le droit au Parlement cette semaine témoigne de cette distance qu'il y a entre les derniers boomers génération X et l'actuelle génération des Grecs milléniaux, en tout cas, peu importe comment on les appelle, ça a 12 noms à cette heure, ma génération 80-95. Fait on était dans le gros clash débat d'idées, pas vraiment, parce que on a spiné beaucoup là-dessus cette semaine. Donc, on y reviendra un peu plus tard à l'émission, mais tout ça pour finir avec les intentions de vote. Début septembre, les conservateurs remontaient beaucoup au Québec. Il y avait pas au point, en fait, d'approcher la deuxième position, mais était quand même remonté à 21-22%, ce qui aurait été quand même très très bon et ce qui aurait pu peut-être donner un 12e-13e siège au Parti conservateur, mais depuis la remontée du Bloc, ils sont redescendus à 18 comme ils étaient au début de la campagne, ce qui veut dire qu'au Québec, on aurait presque une égalité libérale-bloc avec 35 libérales, 31 blocs québécois et le Parti conservateur qui se maintient à 11. Donc, le débat aura peut-être permis au Bloc québécois de se faufiler sur les campagnes qui étaient serrées avec ou les libéraux ou les conservateurs au Québec. Donc, il a donné peut-être une certaine sécurité au Bloc québécois de remporter le nombre de sièges qu'ils espéraient. En fait, même Yves-François, je pense, visait le 40, ce qui semble impossible pour l'instant, à moins d'un hécatombe, comme je le disais, du côté libéral. Pour l'instant, c'est 35 plus ou moins 11. Le Bloc, 31 plus ou moins 11. Et les conservateurs, 11 plus ou moins 3. Donc, dans le meilleur des mondes, le Bloc ravit beaucoup de sièges aux libéraux, mais il y a énormément de comtés qu'on appelle pivots, donc qui sont une égalité ou en tout cas qui peut peut-être laisser présager qu'il y aura un renversement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura, pour l'instant, si tout va bien, il y aura assurément 22 libéraux, 11 blocs et 6 conservateurs de la région de Québec pour les circonscriptions fédérales, avec une possibilité de faire 36 libérales, un de plus qu'en 2019, 30 blocs, deux de moins qu'en 2019, conservateurs, 11, un de plus, NPD, 1, peut-être 2, si Ruth Hélène Brosseau réussit à se démarquer dans Berthier-Masquinongé. Maxime, si tout va bien, ne devrait pas rentrer. Et le Parti vert n'ont plus aucun gain, du moins au Québec. Comme je le disais, il y a beaucoup de luttes serrées. Trois-Rivières, CA3, libéral conservateur Bloc. Sherbrooke, ça pourrait rester libéral, mais le Bloc pourrait peut-être surprendre avec notamment la candidate Ensaf Haïdar qui se présentait sous les couleurs du Bloc. C'est 29 à 27 au pourcentage, dans ce moment, Sherbrooke, 22 NPD et 15 Parti conservateur. Quand même une remontée conservateur, ceci dit. Mais le NPD a dégringolé au profit de NSAF, qui a avoisiné au début de la semaine de peut-être passer devant le Parti libéral, mais là, quand même, perdu un petit pourcentage au profit de la députée sortante Elisabeth Brière. Donc, à suivre dans le cas de Sherbrooke, ça va être une lutte quand même assez serrée cette année. Shefford, même chose. Est-ce que c'est libéral ou c'est Bloc? La circonscription de Québec est en danger pour le comté libéral qui pourrait passer aux mains du Bloc. Montarville, Longueuil, libéral-Bloc. Longueuil-Charlemagne, même chose. La Prairie, même chose. Hochelaga. Fait que c'est comme je le dis, c'est plus ou moins 11 libéral bloc parce que ça, c'est la lutte entre les deux. C'est littéralement la lutte entre les deux. Châteauguay-Lacolle, libéral bloc. Où ça peut se jouer conservateur bloc. Beauport-Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans-Charlevoix et Chicoutimi-le-Fjord. En ce moment, Chicoutimi-le-Fjord, il y a un risque de danger pour Richard Martel, 37-36. C'est extrêmement serré dans Chicoutimi. Il pourrait peut-être y avoir un revirement de situation. Thérèse de Blainville, libéral bloc. Argenteuil, la petite nation, même chose. Et finalement, Beauport-Limoilou qui va se jouer à 3 entre les libéraux, les conservateurs et le Bloc. Députée sortante du Bloc, J. Vignola, qui est présentement deuxième, ex aequo avec le retour d'Alupa Clark à 28. Mais pour l'instant, c'est Anne Gingras à 29%. Donc c'est vraiment, c'est littéralement une lutte à 3 dans Beauport-Limoilou. Donc ça risque d'être en fin de soirée qu'on risque de savoir qui remportera, du moins pour cette circonscription de Québec, où il y aurait un plus un dans le cas du Parti conservateur ou dans le cas du Parti libéral, où on maintient statu quo avec le Bloc et Julie Vignola qui aurait l'opportunité de remporter un autre mandat. Donc, à suivre, ça va être extrêmement serré au Québec. Comme je disais, il y a 11 luttes au moins, 11 chaudes luttes présentement sur le tableau électoral. Si ça se maintient, à suivre, voir de quels seront les résultats et évidemment à surveiller sur vos antennes locales où que vous pourrez suivre la soirée électorale du 20 septembre. On s'arrête quelques instants. Courte pause, au retour, on va apprendre c'est quoi un woke grâce à François Legault qui a essayé d'utiliser un mot de jeune cette semaine, mais que ça se retourne contre lui parce qu'il sait pas c'est quoi être woke et il a sa propre définition du terme. Ça a donné droit à une conférence de presse complètement surréaliste hier à l'Assemblée nationale. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz et de CFAQ.
Yeah.
De retour au deuxième service, je m'en voudrais, ben je vais le souligner tout de suite, je m'en voudrais de pas saluer la gang à Sherbrooke qui ont inauguré cette semaine les tout nouveaux studios à la fine pointe de la technologie que j'avais pu aller voir en coulisses, mais que officiellement ça a été lancé cette semaine, et le nouveau logo que je n'avais pas vu, mais qui est maintenant officiellement, qui est officiellement lancé. Donc salutations à vous tous, salut Eric, notamment directeur à Sherbrooke. DG à Sherbrooke. Voilà. Qu'est-ce qu'un woke, finalement? C'est la question qui a surgi cette semaine au Salon Bleu, parce que du propre aveu de François Legault, qui admire beaucoup Maurice Duplessis, Gabriel Nadeau-Dubois a réutilisé la comparaison pour dire de François que, bon... il avait peut-être quelques ressemblances avec un ancien premier ministre. Et ça n'a pas fait l'affaire de François de rétorquer « Ben, j'aime mieux être un Duplessis que d'être un woke comme le député de Gouin. » Étonnamment, woke n'a pas été banni de l'Assemblée nationale. Habituellement, ils sont bons pour enlever des termes loufoques. On se souviendra d'avoir fait la liste des termes bannis de l'Assemblée à l'émission cet été. Officiellement, lors de la période des questions de mercredi, Gabriel Nadeau a accusé François Legault d'être un Maurice Duplessis ou un monarque qui s'imagine pouvoir expulser symboliquement de la nation québécoise tous ceux qui sont en désaccord avec lui. C'était dans l'idée où, parce que, comme François se plaît à le répéter, il a réalisé un sondage qui lui donnait raison à majorité. Donc, pour lui, la majorité des Québécois est en accord avec le projet de loi 21. On se rappelle, c'est un sondage. On peut faire dire à peu près ce qu'on veut à des sondages, notamment celui sur le troisième lien avec lequel, encore une fois, la CAQ se targue d'avoir un plan incroyable de faire un troisième lien, mais ont interrogé principalement des gens de Lévis et des gens de Québec. Parce que si on demandait à la population, au grand complet, sont-ils d'accord de gaspiller 10 milliards de dollars dans un projet qui sert à rien, évidemment, le résultat serait différent que de demander directement aux gens ciblés « Êtes-vous d'accord qu'on vous donne des bonbons? » Je reviendrai pas là-dessus, parce que j'avais fait un long laïus aussi cet été, mais c'est évident que demander directement aux gens par qui le pont va être, ben le pont, le tunnel va être utilisé, c'est ceux qui vont dire « Ben oui, ça me tente d'avoir un tunnel proche de chez nous. » Mais après ça, tu demandes au reste de la population du pays et de la province au grand complet, c'est ceux qui vont faire comme « Ouais, c'est peut-être pas la meilleure idée. » Ceci dit. Tous ceux qui sont d'accord avec lui. Voilà, le premier ministre a alors répliqué qu'il avait devant lui un woke. Et il a profité de faire une conférence de presse hier jeudi, une mêlée de presse, pour donner sa propre définition de ce qu'est un woke. Et pour François Legault, en point de presse, il accuse le chef solidaire de vouloir qu'on se sente coupable de défendre les valeurs du Québec alors que ce dernier s'oppose au projet de loi 21. Donc, pour François Legault, être un woke, c'est être un anti-projet de loi québécois qui défend la population du Québec. Donc, que Gabriel Nadeau est un méchant fédéraliste, je ne sais pas. Pour le premier ministre, s'opposer à cette loi adoptée par le gouvernement caquiste est un des éléments qui définit un woke, surtout quand on affirme que cette loi est discriminatoire. Donc, selon cette drôle de définition, Gabriel Nadeau-Dubois est un woke, le Parti libéral, donc Dominique Anglade, serait une woke, je pense, parce qu'elle n'avait pas tout à fait approuvé l'entièreté du projet de loi 21. Et ce qui voudrait dire, là, je me risque en disant ça parce que j'ai un méchant doute qui vient de me passer par la tête. En tout cas, Gabriel Nadeau, sûr, serait un woke. Et la modératrice anglophone, présidente d'Angus Reid, la compagnie de sondage, serait une woke aussi d'avoir été méchante avec Yves-François Blanchet. Pour moi, un woke, c'est quelqu'un qui voit de la discrimination partout. Ce serait la définition de François Legault. C'est pas tout à fait ça. On peut être en désaccord avec la loi 21, mais de dire que c'est discriminatoire et que la nation québécoise n'a pas le droit de défendre les valeurs de sa majorité, c'est un débat qui devient très important. Il va falloir que François apprenne à dissocier les choses un moment donné, parce qu'on peut aimer le Québec, mais ne pas vouloir discriminer le monde. Tu sais, c'est comme deux débats et l'un n'égale pas l'autre. Tu sais, de dicter à du monde comment s'habiller sous prétexte qu'on n'aime pas ça, c'est un truc. Mais, après ça, de dire qu'on n'aime pas le Québec parce qu'on n'aime pas le projet de loi de François Legault, semble ça n'a pas vraiment de lien. Je peux comprendre qu'il est majoritaire et qu'il fait ce qu'il veut, mais de commencer à dire « Ouais, je suis peut-être pas d'accord avec ce que tu dis. Ah, t'es un anti-québécois. » Me semble que c'est une pente glissante. Courte pause, on continue à regarder le tout et la véritable définition du terme « woke » et non pas la définition de François Legault. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de chez SFAC.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Capacé, capté par son receveur. Touché, rouge et or.
Pour la première fois cette saison, le Rouge et Or de l'Université Laval affronte les Carabins de Montréal. Après une défaite crève-cœur, les hommes de Glenn Constantin tenteront de rebondir face à une équipe qui a connu le même sort qu'elle la semaine dernière. Un nouveau chapitre de la rivalité entre les Carabins et le Rouge et Or s'écrira ce samedi, 19h, alors que l'avant-match débutera sur nos ondes dès 18h30. Rouge et Or, Carabins, samedi, 19h, à Chiz 94.3.
Tu veux tout savoir sur les élections fédérales?
Pour avoir les résultats en direct, des analyses pour mieux comprendre, des entrevues exclusives, tout ça et bien plus.
Le lundi 20 septembre à partir de 19h avec Guillaume Bédard et son équipe. Écoute la soirée électorale sur les ondes de Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Yeah. je continue à chercher une sortie, à faire ma phobie des autres. Sinon, je me décompose. Cette jeune-là.
Début de l'émission, on avait Xela Edna et Super Plage avec Vague. Maintenant, on a Xela Edna en solo avec Hallucinogène, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Continuons sur Woke, parce que c'est probablement le truc le plus drôle qui a pu se passer cette semaine avec toute la lourdeur des manifestants anti-tout et que, ben, la campagne électorale, pour l'instant, donne pas grand-chose de neuf. Au terme du processus, c'est pas mal la même chose, ou en tout cas, à peu près le même gouvernement qu'on va avoir d'ici lundi. À moins, comme je le dis, d'une surprise extraordinaire selon les probabilités, c'est 15% que Justin Trudeau. Donc, il y a quand même une mini chance que Justin pourrait peut-être être majoritaire, mais encore une fois, c'est assez impossible jusqu'à date. Dans un récent reportage, France Culture cite un journaliste du Figaro qui explique que le mot woke, W-O-K-E, d'abord popularisé dans les universités américaines, signifie être éveillé. Donc, to be woke, le verbe wake, mais au passé. D'être éveillé aux injustices et définir son action politique pour les débusquer. Donc, qui est conscient que dans la vie, tout ne va pas très bien et qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Donc, on pourrait dire qu'il y a des gens qui peuvent voir qu'il y a de la discrimination dans la vie, qu'il y a des gens qui sont moins avantagés que d'autres. Et il y en a d'autres qui nient qu'il n'y a pas de racisme. Bref. le journal Le Monde a aussi défini woke dans un reportage en 2018 comme étant être conscient des injustices et des systèmes d'oppression qui pèsent sur les minorités. Donc, d'être conscient qu'il existe du racisme systémique. Mettons. Tu sais, j'extrapole peut-être un petit peu, mais mettons. On a posé la question. Ou plutôt, on résume la situation. Un woke, selon le premier ministre, c'est une personne qui veut nous faire sentir coupable de défendre la nation québécoise et de défendre ses valeurs. Pour Legault, s'opposer à la loi 21 adoptée par le gouvernement caquiste est un des éléments qui définit être woke au Québec. C'est cute, c'est bien formulé. Surtout quand on affirme que la loi est discriminatoire. Pour moi, un woke, c'est quelqu'un qui voit de la discrimination partout. Techniquement, là-dessus, il a un peu raison. C'est d'être, mais pas de voir de la discrimination partout, mais d'être conscient qu'il y a de la discrimination. Tu sais, ça se rejoint. Là-dessus, on peut le donner à François, il a en partie compris ce qu'est être woke. On peut être en désaccord avec la loi 21, mais dire que c'est... Bon, là, ça se répète. Un terme aux racines américaines. Debra Thompson, professeure de sciences politiques à l'Université McGill, explique qu'être woke réfère en effet à plusieurs choses, mais surtout à une reconnaissance de la nature sournoise du racisme et de la discrimination dans notre société. Être woke, c'est se dire conscient de ses privilèges et du fait que le statu quo renforce les inégalités. Elle donne l'exemple des villes qui ne sont pas conçues pour les personnes à mobilité réduite ou bien à la vie en société qui est vécue différemment selon que l'on est une personne issue d'un groupe majoritaire ou d'un groupe minoritaire. Que ce soit, par exemple, des francophones en territoire anglophone, d'être une personne handicapée ou non, être en chaise roulante et ne pas avoir accès à la moitié des buildings, par exemple à Montréal, parce qu'il y a un escalier à monter, ne serait-ce que ça. Une personne woke dira qu'elle conçoit son action politique en restant éveillée à cette réalité, donc être conscient qu'il y a des gens qui sont désavantagés dans la vie comparativement à d'autres. Un autre professeur interrogé, la professeure Anne-Marie Livingston, au département de sociologie de l'Université McMaster et montréalaise d'origine, rappelle aussi que le mot « woke » a ses origines dans la communauté noire américaine. C'est une expression qui a été développée comme une forme de résistance au racisme et à la violence policière. Le mot a d'abord été mobilisé par des Afro-Américains dès les années 60 et possiblement avant pour désigner l'attitude de leur père qui était mobilisé, éveillé sur les enjeux de justice raciale, selon Frédéric Guillaume Dufour, quant à lui, professeur au département de sociologie de l'UQAM. Il s'appelle Frédéric Guillaume, mon Dieu. C'est long, longtemps. Plus récemment, le mot a été repris par des nouveaux mouvements sociaux, notamment Black Lives Matter, d'où on vient faire le lien avec la communauté afro-américaine des années 60. Il a ensuite été récupéré par certains acteurs politiques pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme une moralisation de la politique. On trouve des conservateurs, pour utiliser le terme négativement, ou des gens à l'idéologie un peu plus conservatrice, disons ça comme ça, mais aussi des gens à gauche qui estiment qu'il y a des risques à se présenter toujours comme vertueux en politique et agir toujours au nom de la vertu. Donc c'est sûr que il y a un dérivé assez facile d'un bord comme de l'autre de l'utiliser, de trop l'utiliser au sens de justement tout le monde est oppressé, tout le monde fait ça mal. Mais il y a aussi le côté négatif qu'on peut y donner de « Ah, mais là, si vous focussez rien sur ce qui va pas bien, ça va pas... » Tu sais, il y a comme une espèce d'équilibre à avoir entre « La société est un échec cuisant » et « Franchement, c'est une minorité de gens qui pensent de même. » Fait que tu sais... Comme on dit, tout est dans tout. Fait que ça peut devenir quand même assez rapidement difficile. Selon Thierry Giasson, chercheur principal du groupe de recherche et communication politique GRSCP, Legault et Nadeau-Dubois ont tous les deux utilisé une vieille tactique cette semaine, soit se définir tout en tentant de définir son adversaire. François Legault tente de camper Gabriel Nadeau comme quelqu'un qui n'est pas fier d'être Québécois ou qui menace la fierté québécoise avec des valeurs d'inclusion, de multiculturalisme et d'ouverture à la diversité. Parce que oui, c'est vrai, François Legault, dans sa conférence de presse hier, jeudi, a à peu près dit que Québec solidaire et le Parti libéral sont ouverts sur le monde, donc ce n'est pas une bonne chose. Tu sais, vu qu'ils aiment le multiculturalisme, vu qu'ils aiment qu'il y ait des gens d'ailleurs qui viennent au Québec, ben François Legault a un peu sous-entendu que les deux partis libérales, fédéral, provincial, que QS, que le NPD, qui eux sont inclusifs et veulent ajouter des gens à la société, font pas ça bien. Parce qu'on se souviendra aussi que François Legault avait déjà dit que on veut moins d'immigrants, mais on veut les choisir. Donc, on veut pas nécessairement que ce soit des gens qui pourraient demander des accommodements. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Il y a beaucoup de flou dans ce qu'il a dit. Et ça a très, très mal sorti hier en conférence en voulant dire que, ben, tu sais, les vrais Québécois sont blancs, pas les autres. Fait que, tu sais, il y a toute cette notion-là qui est une énorme pente glissante cette semaine sur laquelle François Legault est allé. Et comme je le disais en ouverture, c'est en train de se retourner un peu contre lui. C'est un gros pari, car il y a des nationalistes, des indépendantistes ou des autonomistes qui s'identifient à certaines valeurs que défend Québec solidaire, mais qui ne veut pas nécessairement dire que on est moins québécois parce qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Et ça, c'est une pente extrêmement glissante. C'est sûr que de dire que parce que on n'est pas d'accord avec François, on est automatiquement exclu, il y a un peu de ça aussi. Fait que c'est une pente très glissante. Mais en fin de compte, même en étirant la sauce, il n'y a pas grand-chose de woke dans l'épisode de cette semaine, estime le sociologue Frédéric Guillaume Dufour. Gabriel Nadeau a fait plutôt partie de l'aile pragmatique de Québec solidaire. Il épouse les positions inclusives de son parti, mais il n'épouse pas celles de son collectif antiraciste décolonial, perçu par l'aile pragmatique du parti comme un boulet. L'intervention de Nadeau-Dubois n'avait rien de woke. C'est que ce que le débat mettait en jeu, c'est plutôt deux conceptions distinctes de la nation québécoise. Dans l'une où François Legault veut absolument que tout soit neutre, entre guillemets, et qu'il n'y ait aucun symbole religieux nulle part. Mais il y a de l'autre côté Gabriel Nadeau-Dubois qui dit que est-ce que réellement une personne qui porte un turban ou qui porte un collier, c'est si problématique que ça au Québec en 2021? Tu sais, que c'est vraiment un enjeu de société qu'il faut faire un projet de loi qui interdit à certaines personnes dans des contextes très précis de ne pas porter certains symboles religieux. Fait que tu sais, c'est les deux extrêmes. Et dans le cas de François Legault, c'est littéralement, si on n'est pas avec lui, on est contre lui. C'est cette expression-là, François Legault l'a employée cette semaine de manière détournée en disant « Gabriel Nadeau est un woke parce qu'il n'est pas avec moi dans la gang des Duplessis. » Fait que tu sais, c'est un vieil adage. C'est juste que là, on a utilisé des termes jeunes. Fait que dans le fond, mettons, il y a deux ans, Gabriel Nadeau-Dubois, avoir voulu utiliser un terme populaire, aurait dit que François Legault, hockey boomer. Ben aujourd'hui, François Legault a fait l'exact opposé en disant hockey woke. C'est l'exact opposé à hockey boomer de 2019 que François Legault a fait hockey woke. Hockey Gabriel le woke à l'Assemblée nationale. Donc, cette espèce de petite politicaillerie enfantillage a fait sourciller énormément de monde, et même les journalistes qui étaient au point de presse de jeudi en demandant à François Legault « Vous commencez vraiment votre conférence avec ça? » Tu sais, le ministre de l'Éducation a acheté 350 échangeurs d'air pour le Québec au grand complet cette semaine. Il manque 4000 infirmières Et les centres de la petite enfance ont voté un mandat de 10 jours de grève cet automne à 97% hier. Et François Legault commence « Bon, j'aimerais revenir sur l'échange qu'on a eu, Gabriel Nadeau-Dubois et moi, hier, et ma définition de « woke ». Donc, c'est un peu l'espèce de « tout va bien au Québec, voici ce qui me préoccupe vraiment, le mot « woke ». ». Fait que cette espèce de déconnexion-là fait dire un peu « ouais, c'est parce que il y a des problèmes plus graves en ce moment ». Pourquoi vous parlez de ça à ce point? Pourquoi vous voulez faire du millage là-dessus? C'est surtout ça. Musique, maintenant. La nouvelle des louanges avec Chaussée. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de chez SFAC.
On aurait dû en rester là. J'ai rampé pour toi, mais ça fait son temps. Oh, j'ai vu flou, j'ai voulu, oui j'avoue, j'étais dû. Plusieurs que j'ai déçu, trop souvent, peu d'excuses. Mais là j'étais prêt. Oh, mais là j'étais prêt. On aurait dû en rester là. N'en fallait pas y aller là. On sent sur la chaussée. N'en fallait pas. Si je suis différent. Pourquoi suis-je encore de trop, encore de trop? Éjecté de l'auto en marche, mon corps et mon cœur en morceaux.
De retour au deuxième service, nouveauté des louanges sur l'album à paraître éventuellement de des louanges, comme je le disais. En terminant l'émission cette semaine, deux outils qui peuvent être très intéressants si vous êtes encore dans la catégorie ADSI pour lundi prochain. Je le rappelle, important d'aller voter. Consultez le site d'Élections Canada si vous n'avez pas reçu votre carte de vote. Vous allez avoir toutes les informations pour connaître les lieux où aller voter. Il y en a des différents cette année vu que il y a certaines écoles primaires qui ne pouvaient pas et ne voulaient pas tenir des élections en ces murs. Il y a certains choses qui ont été variées, qui ont été changées, donc peut-être ça sera pas au même endroit que la dernière élection pour aller voter. Important d'aller vérifier. Dans le cas des deux outils desquels je voulais vous parler, un qui est beaucoup plus ludique et un qui est beaucoup plus pratique, je vais dire ça comme ça, c'est de connaître pour qui vous pourriez voter selon vos préférences plus générale. Donc, on vous demande quel est votre film préféré, quel est l'album que vous aimez beaucoup, prenez-vous l'autobus, êtes-vous végétarien, quel est votre style vestimentaire? C'est le genre de question sur les habitudes auxquelles on compare, selon une base de données, les autres, pour peut-être vous indiquer pour qui vous seriez les plus ou la plus susceptible de voter. Accessible en ligne depuis mardi matin, l'application Datagotchi, D-A-T-A-G-O-T-C-H-I, datagotchi.com, a été conçue par l'équipe de recherche de la chaire en leadership et en enseignement des sciences sociales numériques, ici même de l'Université Laval, le CLESSN. Après avoir comparé l'efficacité de différents modèles statistiques, les concepteurs de la plateforme, dont le nom est un clin d'œil au Tamagotchi, célèbre dans les années 90, ont entraîné un algorithme d'apprentissage capable de prédire les intentions de vote de ses utilisateurs à partir d'une liste de 30 questions. Ces dernières vont de préférence en moyens de transport les plus fréquemment utilisés ou en passant par la longueur des cheveux, le type d'habitation, comme je disais, etc. Un avatar, de l'utilisateur prend forme au fur et à mesure qu'il remplit le questionnaire. Donc, on crée votre portrait type, entre guillemets, et si l'application a recours à des caractéristiques sociodémographiques classiques comme l'âge, le genre et le lieu de résidence, elle est d'abord et avant tout axée sur les habitudes de vie de l'utilisateur, selon Catherine Ouellette, candidate au doctorat en sciences politiques de l'Université de Toronto et collaboratrice au projet. C'est pour montrer en gros que ces variables-là, où on se tient, ce que l'on fait, ce qu'on mange, peuvent en dire davantage sur qui on est et qu'est-ce qu'on pense et peuvent être surtout riches quand on s'intéresse à la politique. Puis ça peut être aussi des variables qui vont être utilisées par des stratèges. Puis ça peut aussi être... Bon, en tout cas, la chercheuse précise qu'il n'y a pas de relation directe entre, par exemple, la préférence d'un électeur et son goût pour le café latté. Les habitudes de vie sont abordées de la même manière que les variables sociodémographiques classiques dont le pouvoir prédistinctif tend à décliner. Donc, c'est pas parce que vous êtes dans une région où l'on vote traditionnellement, par exemple, un château fort conservateur, mais que vos idées, selon la personne que vous êtes, ne vont pas faire en sorte que vous allez automatiquement être porté à voter conservateur. À preuve, je suis dans le château fort de Jacques Gourde, je réside dans Lévis-Lobinière, et mon pourcentage d'approbation pour les conservateurs était à 1,3%. Donc, ça n'avait aucun lien du fait que j'habitais dans cette circonscription-là que mon résultat allait être similaire. Allez faire un tour, c'est quand même le fun. C'est 30 questions, tu te réponds quand même assez facilement. C'est le... J'ai juste Tamagotchi, mais non, c'est le Datagotchi. D-A-T-A-G-O-T-C-H-I. Recherchez sur Google, ça se fait très rapidement. Et sinon, sur la plateforme de Radio-Canada, outre la boussole électorale qui interroge vos opinions politiques, il existe également le comparateur de plateformes électorales des partis. Dans la section Élections 2021, il y a l'outil pour comparer les plateformes électorales. Donc, vous pouvez sélectionner les partis que vous voulez mettre en face à face. Donc, on met côte à côte les deux parties que vous voulez voir sur des questions environnementales, sur la santé, la pandémie, les taxes, la justice, etc., etc. Et quand l'information est disponible, on a le résumé de ce que les deux plateformes proposent et on peut les mettre côte à côte. Donc, ça peut être plus facile si vous hésitez entre deux choix, par exemple. Donc, 6 partis sont représentés. Libéral, conservateur, Bloc, NPD, Parti vert et même le Parti populaire de Maxime Bernier s'y retrouvent. Je le rappelle, c'est sur la plateforme de Radio-Canada. On peut sélectionner les sujets les uns après les autres, les partis les uns après les autres. On peut mettre les 6, on peut n'en mettre seulement que 2. C'est vraiment assez instinctif et évidemment, ben, on donne les grandes lignes des partis où, selon ce qui est sorti, selon les programmes, on peut avoir des versions un peu plus longues ou des versions un peu plus courtes, mais dans quelques rares exceptions, l'information n'était pas disponible, mais c'était quand même en date du 13 septembre, donc c'est quand même assez récent les informations qui s'y retrouvent. Donc ici radiocanada.ca, /élection fédérale, / comparateur programme plateforme, le nom il est long, mais l'onglet se trouve quand même assez facilement au bas. En fait, dans le haut de la page, vous retrouverez à la une le comparateur de programme et la boussole électorale, ainsi que l'éventuelle page des résultats qu'il y aura le 20 septembre. J'en profite également pour rappeler qu'à Québec, à Chiz 94.3, on aura une soirée électorale sur les coups de 20h du côté ici de Sherbrooke. En programmation spéciale, vous pourrez suivre les résultats de la région de Québec, de la grande région de la capitale nationale et les alentours aussi. On va faire le tour de ça. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service avec un nouveau gouvernement au pouvoir ou la même chose, mais à quelques exceptions près. Suspense jusqu'à ce lundi 20 septembre. À la semaine prochaine. Salut.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.